Et vous écoutez France Culture. Regarder un roman photo, c'est comme regarder la mer. Gérard Lefort, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre au Mucem à Marseille en ce samedi, non pour regarder la mer, quoique, mais pour se délecter de l'exposition qui est consacrée à l'art et à l'industrie du roman photo, de la romance la plus suave aux séances de torture les plus artisanales, de nous deux à Killing et Satanique, c'est en effet tout un univers qu'on peut y découvrir grâce à notre invité Frédéric Deschamps.
Avez-vous mal ? Photo, mon Dieu, mais vous saignez ! Photo, ce n'est qu'une gratitude. Photo, me voilà rassuré. Photo, savez-vous, je sens que cette rencontre n'est pas tout à fait fortuite.
Ouais.
Photo,
ouais.
Votre beauté, votre visage, il me semble les avoir déjà rencontrés dans une autre vie.
Ouais.
Photo, je me sens moi-même comme dans un songe.
Ouais.
Photo, peut-être est-ce le destin.
Ouais.
Photo, je ne vous connais pas, nous ne nous connaissons pas, notre union sera durable. Photo, croyez-vous qu'un tel bonheur soit possible. Photo, pour vous, je briserai les frontières. Photo, les deux grands bras de votre beauté m'ont saisi le cœur à pleine main. Photo, baiser d'amour.
Bonjour Frédéric
Photo.
Deschamps.
Bonjour.
Merci d'accueillir Mauvais Genre sur France Culture, donc dans cette somptueuse exposition consacrée au roman photo dans le cadre du Mucem à Marseille. Je serai en compagnie de Christophe Beer. Bonjour Christophe Beer.
Bonjour François.
Avec Christophe Beer, évidemment, on va sonder un aspect du roman photo qui est moins sentimental et suave que, je dirais, très Mauvais Genre, très sadique, très satanique et très killing.
Quoique assez sentimental aussi, je vous dirai pourquoi, oui.
Voilà. Bah.
Avec satanique. Satanique, le génie du crime.
Alors à Mauvais Genre, on va aller chercher, n'est-ce pas, la suavité chez Satanique et le sadisme dans la sentimentalité. Alors Frédéric Deschamps, vous êtes co-commissaire de cette exposition avec Marie-Charlotte Calafa. Racontez-nous d'abord une chose, c'est votre histoire avec le roman photo, puisque le roman photo, d'une certaine façon, vous n'êtes pas né dedans, vous l'avez découvert. Alors racontez-nous un peu les péripéties, l'histoire de cette découverte, et surtout comment vous êtes arrivé à devenir un peu l'archiviste de ces publications qui étaient vouées à la benne, à la destruction.
De métier, je suis iconographe pour la presse, ça depuis 30 ans. Donc mon travail consiste à chercher des photos pour les journaux. Et j'ai pendant plusieurs années travaillé pour le magazine Science et Vie, qui fait partie du groupe Mondadori. Et ce même groupe Mondadori, Mondadori France, qui a un rapport avec le Mondadori italien, est aussi l'éditeur de Nous Deux, qui existe encore aujourd'hui et qui est encore diffusé à 230 000 exemplaires. Et donc un jour, dans un couloir, je suis tombée sur une pile de Nous Deux qui devait des invendus, qui partaient à la benne. Et je me suis dit, mais mince, ça existe encore. Et c'est marrant, c'est une réflexion que beaucoup des visiteurs de l'exposition font encore maintenant. J'ai feuilleté et j'ai vu des romans photos et je me suis dit, mais c'est incroyable, ça existe encore. Et j'ai commencé à fouiner un peu et je me suis aperçue qu'il y avait très peu de choses sur le roman photo, très peu d'écrits. À l'époque, il existait juste un livre de Bruno Tacco-Gérard sur la question, mais il y avait très peu de choses sur le roman photo. Et après, l'idée de l'exposition est venue lorsque j'ai découvert l'existence de la collection de photos qu'on voit ici, qui est la collection Mondadori. Mondadori, grand éditeur italien, équivalent de Gallimard en France. Et Mondadori a pendant des années édité un magazine de romans photos qui s'appelait Bolero Film. Bolero était d'ailleurs le premier, avec Sogno, à avoir publié en 1947 les premiers vrais romans photos de l'histoire. Donc le roman photo est né en Italie.
Alors racontez-nous un peu justement la découverte de ces archives. Où les avez-vous trouvées? Vous avez découvert donc par hasard les exemplaires, mais les archives elles-mêmes, je dirais les clichés, les scénarios, les storyboards, comment vous sont-ils arrivés?
En ce qui concerne cette collection Mondadori, ce qui m'intéressait, parce que j'étais convaincue qu'on ne pouvait pas faire une exposition sur le roman photo en mettant des exemplaires sous vitrine. Ça aurait été très ennuyeux. Très souvent, les romans photos étaient très mal imprimés, sur du très mauvais papier. Donc il fallait, si on voulait faire une exposition sur le roman photo, trouver du matériel original. Et par un très heureux concours de circonstances, j'ai appris que la Fondation Mondadori à Milan venait de récupérer une centaine de cartons de chez un imprimeur dans lesquels il y avait les négatifs et les contacts de romans photos publiés pour Bolero Film de 1947 jusqu'au début des années 80. Donc c'est vraiment l'idée de ce matériel original qui m'a donné l'idée de faire une exposition. Et on a beaucoup, effectivement, dans cette exposition, tenté de montrer des choses originales plus que des publications à proprement parler.
C'est aussi le travail des photographes. Enfin, quand on voit les originaux, qu'on a en tête l'impression sur le mauvais papier, on a l'impression de découvrir quelque chose de neuf. La qualité des cadrages, l'éclairage. En fait, vous rendez aussi hommage à tout un travail qui a été plutôt laminé par le mode de diffusion et qui est vraiment splendide. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens du cinéma néo-réaliste qui ont dû travailler dans l'ombre dans ce type de publication.
Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que cette exposition aussi voulait rendre justice à ce qui a constitué le matériau original de ces romans photos et qui était souvent formidable. Photographiquement parlant, on le voit avec la collection Mondadori, en particulier, on le verra ailleurs. Et en plus, c'est un travail totalement anonyme. Les photographes sont introuvables, ils ne sont pas cités au générique. Les réalisateurs existent pour les romans photos, mais les photographes qui étaient les opérateurs de ces photos sont très rarement nommés. Et c'est vrai que pourtant la qualité des photos est incroyable. Mais à la publication, c'était sauvagement recadré et ensuite très mal imprimé.
J'ai remarqué, grâce au catalogue, j'ai découvert que Damiano Damiani, que nous connaissons bien à Mauvais Genre, El Chuncho et tant d'autres films extraordinaires des années 60, avait débuté comme réalisateur.
Tout à fait. Damiano Damiani a été l'inventeur du roman photo, avec l'autre, avec Stefano Reda, qui lui avait publié dans Sogno. Mais c'est lui qui a proposé le premier roman photo chez Mondadori, pour après faire une carrière dans le cinéma. Et c'est vrai que, en tout cas en ce qui concerne Mondadori, qui est la collection que je connais la mieux, les réalisateurs de la Mondadori étaient très proches des milieux néo-réalistes italiens. Et il y a eu une vraie porosité entre les deux. Parce que je pense, par exemple, que Antonioni, dont nous montrons ici un documentaire absolument formidable de 10 minutes, qu'il a fait en 1949, soit 2 ans seulement après l'apparition des premiers romans photos en kiosque, je pense que typiquement, Antonioni a été par la suite très inspiré de cette esthétique roman photo, de cet éclairage, de ce noir et blanc, de ces cadrages, de ces gros plans, parce que souvent le roman photo c'est du gros plan. Et donc il y a à cette époque effectivement une vraie parenté entre les deux.
Frédéric Deschamps en 2017, l'an dernier, donc le roman photo a fêté ses 70 ans, est écrit en 1947 en Italie. La question est, il s'est vendu jusqu'à 2 millions d'exemplaires à la fin des années 50. Il prend sa place dans l'histoire de l'illustré populaire entre bon, les lointaines images d'Épinal et le soap-opéra, les séries télévisées d'aujourd'hui. Donc il y a un moment fort roman photo. Par contre, en quoi peut-on le caractériser? En quoi un roman photo n'est-il pas, je dirais, une bande dessinée? N'est-il pas un film? N'est-il pas une suite de cartes postales?
Alors, c'est vrai que le roman photo a beaucoup d'ancêtres. Le roman photo n'est pas né ex nihilo. Avant lui, il y avait la bande dessinée. Avant lui, il y avait déjà le ciné-roman qui commence déjà dans les années 20. Donc l'idée d'un récit en photo existait déjà. Et il y avait aussi le grand ancêtre du roman photo, c'est le roman illustré dont on montre ici des planches du fameux dessinateur Walter Molino. Donc les revues féminines après-guerre ont commencé par publier des romans illustrés. Donc le roman photo est sorti de tout ça. Mais évidemment, la grande invention du roman photo, c'est d'utiliser le médium photographique, qui lui donne une grande force réaliste aussi.
Cette force réaliste, elle est basée essentiellement sur une série d'affects, une série de sentiments qui sont l'amour, la dévotion, la piété, la jalousie, la vengeance, la tristesse. Il y a quand même une dimension fondamentalement mélodramatique, c'est-à-dire mélancolique, voire tragique, dans le roman photo. Pourquoi celle-là semble avoir été choisie d'abord à la préférence au comique ou à autre chose?
Je pense que le malheur, c'est toujours payant. Parce que, effectivement, le roman photo, si on le caractérise en deux mots, c'est une histoire d'amour qui finit bien. Mais si on réfléchit bien, c'est la dernière case, l'histoire d'amour qui finit bien. Tout le reste du récit, et pour du coup en avoir lu pas mal, c'est des histoires absolument atroces. Il y a des suicides, il y a des meurtres, il y a des enlèvements d'enfants, il y a des gens qui deviennent aveugles. C'est le malheur. Et il y a une vraie appétence du public pour ce malheur. Et le roman photo en est la preuve. Ce qui plaît dans le roman photo, certes, ça finit bien, mais c'est tout ce qui se passe avant, tous les obstacles à franchir, tout ce malheur, tout ce tragique.
Le roman photo est un enfant du mélodrame, enfin du roman populaire. Donc là, on est dans tous les Pierre de Courcelles, la Porteuse de pain. D'ailleurs, les grands classiques du roman populaire ont connu leur adaptation en roman photo. C'est peut-être aussi le lectorat, on le qualifie souvent de féminin. Je ne sais pas si c'est une idée reçue ou pas, mais il semblerait que le lectorat féminin soit beaucoup plus porté sur ce type de récit que le lectorat masculin qui, lui, dévorait des romans d'aventure, des romans noirs. Et le lectorat féminin peut peut-être exercer davantage à travers ce type de récit une sorte de sadisme inavoué, puisque, effectivement, la dernière case est la case du happy end. Mais c'est toutes les semaines, le nouveau récit finit sur le happy end, mais on passe le plus clair de son temps de lecture avec des malheurs. Donc soit la lectrice est une sorte de lectrice qui se gargarise et se nourrit de ce malheur et donc en jouit, ou alors elle est masochiste et elle s'identifie à un tel point à l'héroïne bafouée, torturée, humiliée qu'elle en tire également une source de plaisir.
J'allais citer Christophe Beer qui a écrit un article absolument formidable que je vous recommande, qui est en ligne sur le site de Vice, justement sur cet aspect du roman photo et l'aspect finalement sadique de la lectrice. Et je suis intimement persuadée que un des héritiers aujourd'hui du roman photo, c'est la presse People. Et que il y a exactement cette même dimension dans la presse People, c'est-à-dire il y a des happy ends, il y a des mariages, etc. Mais ce qui réjouit avant tout le public, c'est les malheurs, les kilos en trop, les fiancés abandonnés, les... À preuve, la fille la plus populaire, c'est Jennifer Aniston, à qui il n'arrive que des malheurs. C'est celle que le public préfère.
Est-ce que le lectorat est donc vraiment féminin ?
Non. Non, contrairement à une idée reçue, les études faites par nous deux prouvent que il y a environ 60% de femmes pour 40% d'hommes. Donc il y a quand même beaucoup d'hommes qui lisent des romans photos, même si l'acte d'achat est souvent celui des femmes.
En 1957, les romans photos du groupe Del Duca, spécialisé dans la presse du cœur, qu'on va voir plus tard, se vendent à 1,5 million d'exemplaires. Ça demande donc une organisation de fer, une technique d'acier et une méthode imparable, parce qu'on ne peut pas vendre et diffuser à ce niveau, à ce chiffre, sans avoir vraiment une organisation formidable. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement ce qu'est l'histoire d'un roman photo depuis, je dirais, les premières lignes du scénario jusqu'à la vente en kiosque ?
Ha ! Alors ça, pour l'instant, c'est une des choses qui manque dans mon expérience. Je n'ai trouvé, il reste peu de témoins de cette époque. Donc là, on montre, dans cette première partie de l'exposition, des objets qui montrent à quel point la diffusion était massive, mais la technique de fabrication était très artisanale. Le film de Antonioni le décrit très bien. On prenait des clichés qui étaient des clichés argentiques. Donc après, il y avait un processus de développement, de tirage, de retouche, de recadrage, d'ajustage des photos, de collage des photos sur les maquettes. Ensuite, il y avait des calques qui venaient par-dessus pour inscrire les phylactères qui étaient soit manuscrits dans un premier temps, très joliment, à l'encre de Chine. Là, il y a une très belle maquette qui le montre, soit tapuscrits par la suite. Et c'est vrai que c'était une fabrication très artisanale à la base pour une production de masse. Donc il y a ce paradoxe. Mais Chino Del Duca, dont on reparlera plus tard, grand mania de la presse, grand malin, lui maîtrisait effectivement la chaîne de bout en bout, du scénario jusqu'à... il avait aussi acheté des imprimeries. Donc, il imprimait et il avait son propre circuit de distribution des romans photos. Et c'était un type qui, assez extraordinaire, en 10 ans après-guerre, il a sorti pas moins de 10 magazines féminins qui publiaient des romans photos. Sa technique, c'était de saturer le marché. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, ce qui est intéressant dans le roman photo, c'est que le roman photo apparaît après-guerre en même temps qu'une presse féminine qui ne naît pas à ce moment-là. Avant-guerre, il y a déjà une presse à destination des femmes. Mais c'est vrai que je pense que la guerre a libéré les femmes. La guerre les a rendues plus autonomes parce que les femmes se sont retrouvées seules. Elles travaillaient, elles élevaient les enfants, etc. Et donc, après-guerre, elles sont devenues, parce qu'elles étaient devenues un pouvoir économique, parce qu'elles travaillaient, parce qu'elles étaient en charge, parce qu'elles étaient veuves, qu'elles étaient en charge de la maison, mais aussi de travail, y a une explosion de la presse féminine parce que les femmes sont devenues une vraie cible commerciale.
La question du casting, parce qu'évidemment, à histoire sentimentale, à histoire tragique, il faut des physiques qui correspondent, même si les attitudes figées, même si effectivement les poses mélodramatiques, comme on dit souvent, sont à peu près, sont assez facilement repérables pour un acteur. Comment se déroulait le casting? On parlera plus tard des romans photos faits avec des vedettes, mais d'une manière générale, est-ce qu'il y avait des visages, des acteurs, des actrices qu'on retrouvait systématiquement dans toutes les productions? Comment se passait la distribution?
La plupart du temps, les acteurs de romans photo étaient des anonymes. Très souvent, comme le raconte Hubert Serra dans ses mémoires qui viennent d'être publiées aux Indes Savantes, il recrutait dans les agences de mannequins. Le physique était la chose la plus importante, l'aspect dramatique, puisqu'il n'y avait pas à parler, les poses étaient indiquées par le réalisateur, donc la participation dramatique, le côté acteur, était assez peu important. C'était le physique et la photogénie, comment le visage prenait la lumière, qui était l'aspect le plus important.
Il y avait beaucoup de second rôle du cinéma français qui apparaissait aussi dans les romans photos. Et en Italie, il y a eu des acteurs qui ont débuté dans le roman photo qui sont devenus après des vedettes de cinéma bis, parce que justement, là aussi, il y a une porosité entre le cinéma bis italien et le roman photo dans une sorte de certaine naïveté. Donc il y avait par exemple Kirk Morris qui a fait des péplums, Erika Blanc qu'on a vu ensuite chez Mario Bava. Alors peut-être que ces cinéastes d'ailleurs recrutaient ou cherchaient leur visage en feuilletant les romans photos de l'époque. Agostina Belli, Laura Antonelli a débuté dans les romans photos d'espionnage avant de tourner les films que nous connaissons.
En 1947, à 3 semaines d'intervalle, Bolero Film et Sogno publient les 2 premiers romans photos de l'histoire du roman photo. Et dans celui de Sogno, l'actrice principale est une certaine Gianna Loris, qui deviendra Gina Lollobrigida. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est les contacts originaux. Ça, c'est ce que j'ai vu dans la collection Monde Adoré. Ça, photographiquement, c'est admirable, clairement inspiré de Ria Mer. Et l'actrice principale, très belle, c'est une certaine Moira Orfei, qui était la Annie Fratellini italienne, une fille du cirque, mais qui a aussi fait pas mal de petits rôles au cinéma. Et il y a aussi le Guy Lux italien, Mike Bongiorno, qui est le Guy Lux italien.
Là, je vois des gens que je connais très bien, comme Christian Oscar, qui a tourné chez Charles Gérard, Georges Bruce, qui a tourné dans La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky, et surtout Sylvaine Charlet, que nous avons vu dans les films de Norbert Moutier, dans beaucoup de films. Elle a tourné avec Peter Cushing. Et donc, on la retrouve ici dans Les Boutons Dorés, voilà. En 1970, de Pietre. Ah oui.
Et ce qui est marrant, c'est que à côté sont indiqués les salaires de chacun. Ah oui. des voilà.
Ah, la pauvre Sylvaine a eu 80 francs.
Ouais. Alors que
Georges Montand a gagné un peu plus.
Un peu plus.
20 francs de plus, oui.
Voilà.
Stéphane Di Napoli était la vedette à 180 voilà. francs. Non, mais moi, j'aime beaucoup les romans photos français parce que j'y retrouve énormément de second rôle que j'affectionne et qu'on voit, qui sont souvent très mal filmés au cinéma, qui ont toujours des tout petits rôles, on les voit ouvrir des portes. Et là, ils accèdent à une sorte de vedettariat dans le roman photo. François, la photo avec le chien, c'est une de mes préférées. Parce que c'est le bonheur familial avec le chien.
Nous sommes là donc face à un panneau, un grand panneau d'exposition de photos, de romans photos. Alors Frédéric Deschamps, vous pouvez nous les scruter, nous les analyser. Alors effectivement, Christophe Vire pointait une mère et son fils, ou une sœur et son frère, à genoux sur leur lit en train de prier, à côté le chien qui ne prie pas mais qui a l'air joyeux. Alors ça correspond à quoi ?
C'est une image qui, on dirait aujourd'hui, une image de calendrier des postes, quoi. C'est le bonheur absolu dans la piété. Ce qui caractérise la photo de roman photo, déjà, c'est, on dit que c'est une image très cinématographique. Sauf que dans le roman photo, ce dont on se rend compte, c'est que les photos, c'est essentiellement axé sur les personnages. C'est toujours les personnages. Il y a très peu de paysages. Il n'y a pas de contre-champ, il n'y a pas de hors-champ. C'est toujours des plans moyens ou des plans serrés dans le roman photo.
Alors, ce qui est caractéristique, c'est que là, on voit ce qui pourrait être des photogrammes, des images de films. Mais néanmoins, ça ne sont pas des images de films au sens où elles forment une unité. C'est ça la caractéristique du roman photo. On ne peut pas dire qu'on va d'une image à l'autre. Les images sont à la fois en succession et seules et uniques en leur genre. C'est-à-dire qu'on est dans une succession, mais pas dans un enchaînement. Voilà. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'au cinéma, les images s'enchaînent, là, elles se succèdent, et malgré le fait qu'elles s'alignent les unes après les autres, eh bien, elles restent solitaires. Je vois par exemple là, l'Angelo Nero de 1963, donc ça doit être le nom d'un roman photo. Il y a un monsieur, la main dans la poche, au bord d'un lac, qu'on imagine un lac suisse, le lac de Garde ou autre. Une dame qui a l'air d'attendre ou qui fait autre chose, qui attend peut-être qu'on lui parle, et puis un arbre. Alors, c'est à la fois une photo qui vaut par elle-même, et en même temps, ça doit être l'élément d'un récit. Donc, c'est une espèce d'étrange position de la photo de roman photo qui est à la fois solitaire et enchaînée.
Oui, la photo de roman photo a un aspect cinématographique, mais elle est toujours très synthétique. Elle ramasse toutes les informations. Et en deux plans, et avec le minimum d'éléments possibles, elle doit synthétiser le récit. Et donc souvent, il suffit d'un chandelier pour dire qu'on est dans un château, un palmier pour dire qu'on est au Congo. Voilà, la photo de roman photo est une photo très ramassée, très compacte et très presque une image d'Épinal, quoi, qui en soi doit raconter toute l'histoire. J'attire votre attention sur celle-là qui est une de mes préférée, qui est un peu osée pour une photo de roman photo, parce que là on est vraiment dans l'acte sexuel. Et sur la photo, il s'agit de Valeria Ciangottini, qui était l'actrice qui, à 15 ans, a tourné dans la Dolce Vita. C'est la fameuse scène finale avec le regard caméra de cette jeune fille qui fait un signe de la main à Mastroianni, qui est de l'autre côté du bras de mer. Valeria Ciangottini, qui vit encore aujourd'hui, qui est actrice de théâtre, a fait pas mal de romans photos à une époque où il fallait vivre, quoi. Pour beaucoup de gens, ça a été un gagne-pain. J'avais gardé pour vous quelque chose de très amusant qui est sorti à l'occasion de la mort de France Gall, la mort récente de France Gall. Elle racontait dans une interview en 1996 qu'en 1971, sa carrière était un peu en berne et elle avait dû tourner dans des romans photos. Et France Gall dit « Pour moi, ce roman photo, c'était la déchéance. L'étape d'après aurait été de faire un film porno. »
Ça, Zoé, Zoé, ça ne veut rien dire. Zoé, Zoé, ça m'amuse, ça me fait rire. De dire et redire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Zoé, Zoé, je dis aux gens, Zoé, Zoé, même dans la rue à la chambre.
Justement, Frédéric Deschamps, là, vous nous ouvrez un autre chapitre de l'histoire du roman photo, c'est la mobilisation, à grands frais, j'imagine, de gens connus et de vedettes, d'acteurs, de chanteurs ou de chanteuses connus et importants. Alors, effectivement, alors là, je me tourne et nous sommes avec Joe Dassin, mais Joe Dassin, il n'y a pas que Joe Dassin, il y a Eddie Mitchell.
Klaus Kinski.
Klaus Kinski.
C'était dans Télépoche.
Donc, on peut citer aussi Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Herbert Léonard, dont j'ai redécouvert le riant visage en voyant le catalogue de l'exposition, Gilbert Bécaud. À quoi a correspondu pour tous ces noms connus? Jacques Martin, il y a même Jacques Martin, là, voilà. Le fait de faire un roman photo, là, France Gall, c'était effectivement pour payer la note du boucher, payer les factures, mais pour les autres, est-ce que c'était une distraction ou est-ce que, effectivement, quand on vend 2 millions d'exemplaires, c'est également une promotion importante, qu'on soit à la télévision, au cinéma ou dans la chanson?
Celui qui a eu cette idée de faire tourner des vedettes dans le roman photo, et notamment toutes les vedettes de la période yéyé, c'est toujours le fameux Chino Del Duca. Quelques années avant, était sorti « Salut les copains ». Chino Del Duca était un petit malin qui copiait tout ce qui se faisait ailleurs. Et donc, il a vu le succès de « Salut les copains » et il s'est dit « On va embaucher des vedettes et comme ça vendre beaucoup de romans photos ». Donc, c'est lui qui a surfé sur cette vague du vedettariat et qui en a vraiment tiré profit. Mais il n'a pas été le premier. La première vedette a tourné dans un roman photo français, c'était un coureur cycliste, Coblet, qui avait été vainqueur du Tour de France. Mais c'est lui qui a été la première vedette du roman photo français. Mais c'est vrai que toute cette période qui est la plus connue, avec, là, on voit Dave, les Charlots, etc. Michel Delpech. Ça, c'est Chino Del Duca qui l'a inventé. Et là, effectivement, ces gens-là étaient beaucoup mieux payé que ne l'étaient les acteurs de romans photo lambda.
Alors on va se déplacer un peu en direction de Sophia Loren, parce que Frédéric Deschamps, le roman photo peut gagner à utiliser des visages connus, acteurs, actrices et chanteurs, mais il peut vraiment révéler des physiques, et ça a été le cas dans Sonio avec Sophia Loren.
Voilà, Sophia Loren commence dans la vie en faisant des petits concours de beauté, Miss Adriatique, Miss je sais pas quoi. Et après, elle est repérée et elle tourne dans 5 romans photos. À chaque fois, elle tourne le rôle de la méchante. Elle a, à l'époque, 16 ans. Elle tourne 5 romans photos en tout et pour tout. Et après, elle passe au cinéma et elle ne fera plus jamais de romans photos. Et c'est marrant, il y a un de ces magazines de romans photos qui fait une couverture avec un profil que nous n'avons pas dans l'exposition, un profil admirable de Sophia Loren, avec en légende « Et notre vedette », parce qu'à l'époque elle s'appelait Sophia Lazzaro. La légende veut qu'un réalisateur de romans photos l'ait baptisé ainsi parce que sa beauté pouvait réveiller les morts. Donc à l'époque, elle s'appelait Sophia Lazzaro. Après, elle est devenue Sophia Loren au cinéma. Et donc, ce magazine faisait sa une avec ce profil formidable de Sophia Loren en disant « Et notre vedette nous a été volée par le cinéma ».
Oh,
avant d'entrer, Frédéric Deschamps, dans le pavillon Nous Deux, qui est le cœur de l'exposition, on s'arrête un peu devant ces autres exemplaires de romans photos qui montrent bien qu'on n'a pas affaire à un produit figé, enfin disons localisé en Italie et en France, mais que le rayonnement est quand même international.
Le roman photo s'est exporté plus vite que le parmesan. Les Italiens ont très vite compris que c'était un produit suffisamment universel. Le récit était basé sur des histoires de mensonges, de trahisons, d'amour, qui avaient une portée universelle et que donc ça pouvait être transposé dans le monde entier. Et très vite, donc, les romans photo italiens se sont vendus dans le monde entier. Et après, pas mal de pays ont commencé à faire leur propre production locale. Les Français, mais aussi, on le voit sur ce mur, les Espagnols, les Grecs, les Chinois ont fait du roman photo, les Indiens. Et il reste des choses encore à trouver.
Les Anglo-Saxons, en revanche, ont été très hermétiques à cette culture.
Ouais. Le roman photo n'a jamais pris aux États-Unis. Chino Del Duca a fait une tentative à un moment donné pour implanter un ersatz de Nous Deux aux États-Unis et ça a été un échec total. Il y a le fait qu'aux États-Unis, la télévision était déjà très présente. Il y avait déjà des feuilletons. Donc effectivement, le roman photo intéressait moins que les feuilletons télévisés. Mais c'est vrai que d'une manière générale, le roman photo a pris dans les pays catholiques tout le bassin méditerranéen et l'Amérique du Sud, qui a été gros client et ensuite gros producteur de romans photo. Donc c'est vrai qu'il y a un lien entre culture catholique et romans photo. Et il me semble qu'on peut quand même dire que c'est aussi de par l'histoire, le prosélytisme catholique s'est beaucoup fait par l'image, alors que les protestants sont beaucoup plus rétifs à l'utilisation de l'image. Une des choses qui m'a le plus étonnée dans les recherches, dans les lectures que j'ai pu faire sur le roman photo, c'est la violence des critiques à l'endroit du roman photo. Parce que finalement, on se dit, c'est une bluette. Bon, certes, c'est un peu j'essaye pas de dire que le roman photo était un truc formidable. Souvent, les scénarios étaient cousus de fil blanc. Mais la violence et l'unanimité de la critique vis-à-vis du roman photo est assez incroyable. Là, on a la citation d'une association pour la dignité de la presse féminine française, dans laquelle il y avait Madeleine Renaud et Elsa Triolet, et qui dit que cette presse porte atteinte à la morale et désagrège les familles. Quand même d'une violence incroyable. Et là, il y a un extrait, effectivement, de l'encyclique du...
Nous ne pouvons nous empêcher d'exhorter spécialement à l'exactitude, à la prudence et à la discrétion dans la présentation de la vérité, ceux qui, par leurs livres, leurs revues et leurs journaux, aujourd'hui en si grande abondance, exercent une telle influence sur l'esprit de leurs lecteurs, surtout des jeunes, et sur la formation de l'opinion et des mœurs. C'est à eux qu'incombe le très grave devoir de propager non le mensonge, l'erreur ou l'obscénité, ni ce qui excite au vice, mais bien le vrai et tout ce qui porte au bien et à la vertu. Encyclique du pape Jean XXIII, Ad Petri Cathedram, 29 juin 1959.
C'est vrai qu'on imagine difficilement Jean XXIII, héros de romans photo.
Mais il y a eu Jeanne d'Arc. Il y a eu quelques romans photos.
Et elle est là.
Oui. Il y a eu
des romans photos catholiques.
Là, il n'y a pas de happy end de subir.
Non, elle meurt dans les flammes de l'enfer.
Effectivement, malgré, donc on l'a dit, la critique était unanime. Elle venait des intellectuels, des communistes qui étaient à l'époque la grande force d'opposition intellectuelle, et elle venait des catholiques. Chacun avait ses raisons de critiquer le roman photo. Les catholiques pensaient que c'était obscène, comme on le voit dans ce que dit Jean XXIII. Les intellectuels pensaient que c'était totalement abrutissant. Et les communistes pensaient qu'il y avait dans ces histoires de destin personnel quelque chose qui était contraire à la philosophie marxiste, qui est justement prendre son destin en main, lutter, etc. Malgré cette opposition unanime, les catholiques ont compris à un moment donné que le roman photo était quand même un instrument formidable de prosélytisme, et ils ont fait pas mal de numéros avec la vie des saints, notamment celle de... Elle n'était pas sainte, mais il y a la vie de Jeanne d'Arc en roman photo, il y a la vie de plein...
Elle l'était à l'époque.
À l'époque, elle l'était. Plein de vies de saints racontées en roman photo. Et pareil, alors c'est une production assez limitée, mais dans les archives de la fondation Gramsci à Rome, nous avons retrouvé, il y a une dizaine de romans photos fabriqués par le Parti communiste italien. C'était des vrais romans photos, c'est-à-dire une histoire d'amour, mais beaucoup sur fond d'émigration, puisque c'était le grand thème de l'époque, l'émigration du sud vers le nord à cause de la pauvreté, sur fond de grève dans les usines, sur fond de patrons ripoux. Bref, là, par exemple, on voit une image de roman photo avec une réunion de cellules où il y a Ho Chi Minh et Che Guevara, quand même. Voilà. Donc c'était du vrai roman photo, mais à la sauce communiste.
Alors maintenant, on va entrer dans le vrai roman photo, mais à la sauce roman photo, avec le pavillon. Nous deux, Frédéric Deschamps, nous sommes au cœur, dans l'œil du cyclone, entourés par toutes les couvertures en couleur, ou alors effectivement, on a l'impression que c'est toujours le même couple, mais qui a changé la couleur des cheveux et la coupe. Il y a combien d'années de 70 ans de nous deux, quasiment ?
Oui, on a choisi la période symbolique de nous deux, qui a duré très longtemps, celle où les couvertures étaient des illustrations. Quand nous deux a commencé à publier du roman photo, la couverture est restée illustrée pendant très longtemps. Nous deux est né en 1947, le créateur c'est le fameux Cino Del Duca, et il a entièrement copié la recette sur le magazine italien Grand Hôtel, qui avait été fondée l'année d'avant par ses deux frères, Alceo et Domenico Del Duca. Et il a repris entièrement la formule. Et d'ailleurs, très souvent, il reprenait dans nous deux des illustrations faites pour Grand Hôtel ou des romans photos faits pour Grand Hôtel. Cino Del Duca était un grand malin, c'est un personnage assez ambigu, avec plein de qualités et défauts. En tout cas, c'était un grand malin. Comme je vous le disais tout à l'heure, en 10 ans après-guerre, il a mis sur le marché 10 magazines féminins. À la base, ce Cino Del Duca était un colporteur. Il vendait des petites revues pour enfants au porte-à-porte. Et il a fini grand éditeur de presse. Et après, il s'est cherché aussi une légitimité culturelle qu'il n'avait pas toujours. On le sait moins, mais il a été aussi producteur de cinéma. Par exemple, il a été producteur de L'Aventura de Antonioni.
Frédéric Deschamps, il y a une série de bulles là, oui, qui sont peintes sur le mur. Alors je vais en prélever certaines. Même un aveugle s'apercevrait que tu es enceinte. Nous sommes gays, donc sur la bonne voie. Tu es splendidement bourgeois. Tu dois avoir chaud, virgule, j'ai envie de te voir nu. Ne me dites pas que ça a été choisi par hasard.
Non, ça n'a pas été choisi par hasard. J'ai passé 2 semaines entières dans les archives de nous deux parce que je me suis aperçue en fin de course, au mois de septembre dernier, c'est-à-dire quelques mois avant le début de l'exposition, que la dimension texte manquait beaucoup à cette exposition. Parce que le roman photo, c'est vrai que c'est des images, mais c'est des phylactères. Et dans le roman photo, on parle d'une manière très particulière, qui n'est ni véritablement du langage écrit, ni du langage parlé. C'est un langage un peu suranné. Alors attendez, la phrase que j'aime beaucoup.
Celle-ci, ne comprends-tu pas que ma dignité se rebelle ?
Voilà. Ou, quelle apparition ! Tu ressembles à Vénus sortant des ondes. Voilà. Je voulais qu'on rende compte de ce côté désuet et. Mais, voilà.
Il n'y a pas aussi un côté autodérision ? Ah, par exemple. C'était un homme trop sérieux pour se tuer pour une femme. Tout d'un coup, on dirait qu'il y a une autocritique du roman photo tel qu'on l'imagine toujours, où des hommes sont justement prêts à se tuer pour une femme.
Là, je crois que vous allez un peu loin. Je crois que le...
Ah oui, mais quand même, là vous les avez bien choisis.
Oui, je les ai bien.
Je brille partout, sauf avec les filles. C'est de l'autodérision, non ?
Je crois pas.
À tout à l'heure, Max m'attend dans sa Ferrari.
Je crois que c'est vraiment du premier degré.
Ah oui.
Actuellement, les romans photos ne connaissent plus de frein. Leur budget dépasse couramment 30 millions d'anciens francs. Et leurs équipes de tournage sont plus importantes que celles d'un film Nouvelle Vague. Ce jour-là, on tournait rien moins que du Victor Hugo. Les Misérables en roman photo. Il existe également un style résolument plus moderne, Franck Alamo Aviateur. Le thème, une maîtresse délaissée a saboté l'avion de l'idole. Comment prépare-t-on un roman photo ? Nous avons rencontré M. Serra, l'un des principaux metteurs en scène français de ce mode d'expression.
Alors Frédéric Deschamps, sous le titre « Nous deux », il y a marqué « L'hebdomadaire qui porte bonheur ». Alors maintenant, nous voilà dans le pavillon de l'hebdomadaire qui porte malheur, Killing, alias Satanique. Alors effectivement, on patauge dans la guimauve et l'eau bénite, je dirais, dans les suavités depuis le début. Mais là, on va passer aux choses sérieuses. Nous sommes un mauvais genre, avec cette figure masquée déjà, donc qui dément la tradition du roman photo, du faciès, du visage, de l'apparence du bel âtre, pour être un personnage donc entièrement masqué, un peu comme Fantomas, totalement mythique, et qui là, au contraire, n'abonde que dans la souffrance, la torture, le sadisme et la négativité.
Killing est là aussi un roman photo inventé par les Italiens, décidément très inventif, et qui s'est appelé, qui a été publié concomitamment en France sous le nom de Satanique. Et c'est un roman photo clairement inspiré de la bande dessinée. Killing est un personnage, certes, de roman photo, mais à la base, c'est un personnage de vêtu d'un costume de squelette. C'est un personnage typiquement de bande dessinée. Et oui, c'est vrai.
Les Fumettineri en Italie, au début des années 60, il y avait Diabolique, il y avait Lo Skeletto. Beaucoup de personnages comme ça, on les appelait les Monsieur K, parce qu'il y avait souvent un K dans leur patronyme Killing, en France Satanique, Démoniaque, qui était une femme. Donc c'est cette bande dessinée noire italienne qui émergeait au début des années 60, qui était une bande dessinée pour adultes, dont s'est inspiré Ponzoni, l'éditeur qui a lancé ce personnage de Satanique.
C'est vrai que là, ce qu'il faut rajouter, c'est que la bande dessinée a été un secteur très florissant en Italie, notamment parce que, pendant la guerre, Mussolini avait interdit l'importation des bandes dessinées américaines. Donc beaucoup de bandes dessinées se sont fabriquées en Italie après-guerre.
Oui, il faut préciser aussi le format de Satanic Killing. C'est un format de poche, petit format, donc souvent avec un découpage de deux photos par planche. Parfois, il y a quelques fioritures. Et c'est exactement le découpage traditionnel des bandes dessinées italiennes qu'on trouvait dans les kiosques en petit format.
Moi, quand j'ai découvert Satanic, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller voir Christophe Buir, grand spécialiste de la question. Je découvrais la Lune. Je me suis aperçu que ce Killing Satanique était quelque chose d'absolument mythique pour beaucoup de gens. J'ai lu dans un ouvrage italien que la diffusion de Satanique en France, à un moment donné, était de 700 000 exemplaires par semaine. Ça vous donne une idée de la popularité du truc. Et là, il y a un extrait formidable qu'on montre d'un film de Maurice Pialat, L'enfance nue, où on voit un petit garçon qui lit des sataniques Et à la fin de l'extrait, c'est merveilleux, la mémé s'assoit et regarde. Venez voir ça, c'est trop beau.
Oh, regarde.
Ça, c'est un livre pour exciter, ça.
C'est pas des livres pour ton âge, mon garçon. Non, 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 non. Non, non. Viens ici, j'essaye ton pull vert.
Oh, bah par exemple.
Alors, quel est un peu le scénario type de Killing? On connaît, on croit connaître les scénarios types de Nous deux ou de Confidence, mais alors Killing, est-ce qu'il y a quelqu'un, un trésor à dérober, ou est-ce que c'est de la souffrance pure, est-ce que c'est la pure jouissance sadique du squelette masqué?
On raconte que le réalisateur de Killing avait un ouvrage entre les mains dont il s'inspirait, semble-t-il, beaucoup, qui s'appelait « La torture au travers des âges ». Donc la torture avait l'air d'être l'élément central des histoires de Killing. Et puis, les filles en petites culottes, quand même. Hein. Donc le sadisme et l'érotisme étaient les deux éléments principaux de...
En fait, Killing est un pur produit du roman photo. C'est peut-être le roman photo sentimental le plus accompli. Parce que contrairement au Nous deux, où il y a toujours des problèmes, donc on peut se dire que le happy end n'est peut-être qu'un happy end provisoire quand on lit toutes les avanies que subissent les héroïnes. Alors que d'emblée, avec Satanic Killing, le couple est uni, certes dans le vice, mais uni. Il est foncièrement amoureux de Dana, la blonde créature qui le recouvre de diamants et de billets de dollars. C'est la perfection absolue du couple tel que les romans photosentimentaux ont toujours essayé de nous vendre.
Il y a une anecdote assez amusante concernant Killing, c'est que l'adaptation française, puisqu'il était traduit de l'italien, était faite par Yves Boisset et Jean-Patrick Manchette. Et j'avais lu ça, que c'était Yves Boisset. J'ai obtenu son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Il m'a confirmé, effectivement, qu'il avait fait ça comme un travail alimentaire. Et il disait, avec Manchette, on s'amusait à truffer les dialogues de phrases de Bakounine.
Dans le catalogue de l'exposition donc sur les romans photos qui se tient en ce moment au MUCEM à Marseille, exposition pour laquelle nous avons fait le voyage, il y a une phrase d'un texte de Gérard Lefort dans lequel il dit « Dans le roman photo, on fait l'amour en slip ». Alors, monsieur Beer, est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que des fois, on ne met pas le slip bas?
On baisse le slip à partir du milieu des années 70. Mais j'attire votre attention sur une curiosité, c'est le Olympe, premier roman photo naturiste, où là, donc naturiste, mais encore en slip, ce que les naturistes appellent le minimum. Et on baisse le slip, en fait, à partir de 76, en Italie seulement, avec des revues comme Érotique, ou alors, mais là je n'en vois pas d'exposé, Super Sexe. Si, Super Sexe est derrière moi. Oh oui, il y a une pièce secrète, certainement interdite au moins de 18 ans, mais je pense que nous pouvons tous rentrer. Ah voilà, alors là, voilà François,
oui.
Là il n'y a plus aucun slip. Là vous avez, alors Super Sexe a été, comme Killing dans les années 60, Super Sexe a été la grande vedette du roman photo italien. C'était un extraterrestre qui s'était retrouvé sur Terre et qui changeait son identité. Il avait pris la possession du corps d'un inspecteur de la sûreté. Le roman photo est italien, mais il était tourné à Paris, donc avec des équipes françaises. Et donc vous retrouvez d'ailleurs, pour les spécialistes du genre, tout le gotha du film pornographique français. Marilyn Jess, par exemple, Brigitte Lahaie, le nain Désiré Bastaro, toutes les vedettes du porno français étaient présentes. Et quand Super Sexe faisait l'amour et avait un orgasme, il y avait une bulle extraordinaire, son cri de jouissance qui était « Ifix Tsentsen » et qui prenait toute la place dans le cadre de l'image. Parce qu'il y a aussi, on a beaucoup parlé de la photo dans sa singularité, mais il y a aussi un aspect très très passionnant dans le roman photo, surtout quand il se déploie sur du grand format, c'est la mise en page avec parfois beaucoup de fantaisie dans le découpage, dans les bulles ou les phylactères d'onomatopées qui débordent du cadre de l'image. Parfois, vous avez des diagonales aussi. Ça n'est pas toujours quelque chose de figé avec deux images par page ou quatre images. Donc ça, c'est quelque chose dans Supersex qui est assez intéressant. Et évidemment, les cadrages servent souvent à mettre en valeur les organes génitaux, puisque là, on est en pleine pornographie. Golden Gay, alors ça, je ne l'ai pas, malheureusement. Voilà quelque chose qui manque à ma collection. Ça n'a pas eu un grand succès, mais il y a eu, dans la suite de Supersex, une tentative pour un roman photo gay pornographique. Et là, vous voyez Marilyn Jess, très gracile, magnifique, au milieu de ses deux partenaires gays. On ne les connaît pas, ces deux-là.
On va terminer cette visite, cette déambulation radiophonique dans l'exposition Roman Photo du Mucem avec ce que tu as appelé le côté un peu avant-gardiste, post-moderne, c'est-à-dire le détournement, la parodie, le pastiche, l'utilisation du roman photo par tout ce qui est évidemment underground, mouvements marginaux et puis l'insurrection intellectuelle, souvent liée à 1968. Alors Christophe Beer, là on est entre Harakiri, les situationnistes, l'édition de Minuit.
Oui, effectivement, on est plus dans un domaine français. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé en Italie à ce moment, mais en France, des artistes ont très vite compris l'intérêt artistique du roman photo pour le détourner ou simplement pour en faire quelque chose d'autre. Et c'est le cas notamment dès les premiers Harakiri. GB s'est tout de suite emparé de ce média, de cette forme de récit, pour en faire avec son comparse Bernier des histoires à deux planches tout à fait extraordinaires. Et c'est comme ça qu'est né le personnage du professeur Choron, avec ses fiches bricolage notamment. Et là, on est devant un panneau d'un Harakiri des années 60. Il y a manifestement une même inspiration que celle qui présidait au délire télévisuel de Jean-Christophe Averty. Exactement. On est dans le même état d'esprit. Alors, par rapport au roman photo de Cino Del Duca, il y a beaucoup plus de créativité visuel, puisque GB vient du dessin, il se permet de rajouter des éléments qu'il n'a pas dans sa prise de vue. Moi, ça me fait penser à du Jean-Christophe Averty, là, cette paire de ciseaux qui a été rajoutée dans les mains du comédien. Et tout ça se faisait souvent le soir, après la réunion de travail. Ils investissaient leur bureau pour composer leur roman photo avec des copines. Il y avait beaucoup de filles qui étaient des danseuses de chez Dirk Sanders. Encore toujours que Jean-Christophe Averty, des filles en fait qui avaient cette possibilité à l'aise dans leur corps et pouvant se plier un peu à toutes ces folies, ces contorsions que nécessitaient parfois certains gags, puisque là nous sommes vraiment dans le roman photo gaguesque.
Dans le catalogue, il y a d'ailleurs une interview de l'actrice Chris qui jouait dans les romans photos du professeur Choron et qui raconte à un moment donné une anecdote assez savoureuse. On lui met un pétard dans les fesses en lui disant « Ne t'inquiète pas, on va l'allumer, mais il est absolument inoffensif. » Et en fait, c'était un vrai pétard qui a explosé, qui lui a fait très mal au derrière.
Eh bien, c'est sur l'image et le bruit de ce pétard introduit entre les fesses de Chris par l'équipe de Harakiri que nous terminons cette déambulation radiophonique dans la superbe exposition Roman Photo qu'on peut voir en ce moment au Mucem à Marseille. Merci Frédéric Deschamps de nous avoir voituré dans cette exposition. Merci au maître Beer d'avoir été là également. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Jean-Louis Delon, Seab Boutata, Claire-Martin Dugard, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission de Mauvais Gens. On se retrouve samedi prochain avec le dessinateur Franck Legal.